Le Pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à bord du Pédalo, votre émission estivale d'actualité sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir, au programme, une interview de François Marot, membre du comité de programmation du festival Au Foin de la Rue, également co-président de l'association. Vous retrouverez également l'agenda d'Elisa et en deuxième partie d'émission, la chronique Termine, qui va nous raconter son voyage en covoiturage. Et la chronique de Chloé qui nous racontera un peu l'organisation du planning familial. Ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et j'ai donc tout à l'heure interviewé François Marot, le co-président du festival Au Foin de la Rue. Je l'ai eu au téléphone pendant un petit quart d'heure. Vous le connaissez sûrement, c'est le plus grand festival de Mayenne et c'est sa 21e édition. Je veux bien sûr parler du festival Au Foin de la Rue. Les 1er et 2 juillet, à Saint-Denis-du-Gâtine, on va chanter, danser et faire la fête devant une programmation qui devrait en ravir plus d'un. Outre les Tilacines, Roméo Elvis et Rodrigo et Gabriella, ce sera l'occasion d'aller danser avec Irène Drezel, Gad Altéjaz et les Vulves Assassines. François Moreau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le co-président de l'association Au Foin de la Rue qui organise donc le festival éponyme. Et évidemment, première question, la classique, mais ça fait quand même plaisir. C'est la première édition depuis 2 ans.
Ouais, c'est ça, depuis 2019, après les 2 annulations suite au Covid-19. On vient en force, entre guillemets, pour cette 21e édition, pardon, avec une belle programmation. On est hyper content de ce qu'on va proposer. Et j'espère que le public aussi va être content.
Vous attendez à peu près combien de personnes?
Alors, 18 000, on sera complet. Si on fait ça, ce serait génial. Mais après, en gros, 15-16 000, je pense.
Sur les 2 jours?
Pour, en tout cas. Ouais, sur 2 jours. Donc à peu près 9 000 par soir.
Super.
Les réseaux partent bien, donc c'est plutôt encourageant.
Dans votre dossier de presse, vous dites que le site du festival est entièrement scénographié avec des matériaux de récup sur le thème de l'eau.
C'est ça. Alors, tous les ans, après l'Assemblée Générale, on choisit un thème différent. Donc, cette année, c'est l'eau. Et on fonctionne par commission au sein de l'association. Donc, il y a une commission décoration qui planche une fois que le thème est choisi pour décorer le site du festival avec le thème choisi en fonction. Donc, l'eau cette année.
Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir si on devait décrire à nos auditeurs?
Bon, il y a des sculptures en forme de bouteilles d'eau, donc c'est que de la récup à chaque fois. Alors après, moi, j'ai même pas trop vu ce qu'ils sont en train de faire. Ça va être un peu aussi la surprise, je me garde ça comme surprise. Donc ça va tourner autour de ça, de beaucoup de sculptures, etc.
Et vous avez choisi le thème de l'eau, évidemment ça fait écho avec l'actualité en ce moment puisqu'on est en pleine période de sécheresse. C'est une thématique dont on a aussi beaucoup parlé pendant l'élection présidentielle. Il y a aussi un message écolo derrière, je suppose, quand même.
Ouais, ça en faisait partie. Il y avait 3 thèmes différents. Après, donc, c'est les bénévoles qui choisissent, donc c'est peut-être inconsciemment aussi ils ont choisi ce thème-là, hein, parce qu'on a de fortes valeurs écologiques, donc ils ont bien choisi. On est très contents aussi de proposer un thème comme celui-ci.
Vous essayez donc, et vous venez de le dire, d'être le plus écolo possible. Vous parlez d'une diminution de 40% des émissions de CO2 par rapport à 2016, d'un camping 100% énergie renouvelable, un chauffe-eau solaire pour les douches, des bénévoles, des points de tri tous les 30 mètres, une vaisselle compostable, des toilettes sèches, j'en passe. C'était un vrai engagement du festival, hein. D'ailleurs, je crois que vous avez des récompenses à ce sujet.
Oui, donc depuis la création du festival, on essaye de s'améliorer à sur ce domaine-là, on y arrive très bien. Il y a beaucoup de festivals qui viennent nous demander comment on fait, comment on arrive à développer ça. Donc on a une équipe qui penche aussi là-dessus. On a aussi signé la charte Plastic on Plastic qui vise à accompagner les festivals vers la réduction et la suppression du plastique jetable. Donc il y a plein de trucs qu'on essaye de mettre en place et les festivals sont très sensibles à ça parce que après le festival, le camping est presque nickel. En fait, on a des Michel qu'on appelle qui sensibilisent les festivaliers pendant le festival à bien trier leurs déchets parce que c'est évidemment des champs d'agriculteurs qui utilisent à l'année, et après le festival, il y a presque zéro déchet à ramasser. Donc,
et c'est quoi les conseils que vous donnez alors aux autres festivals qui viennent vous en demander ?
Bah, c'est comme on arrive à être 100% alimenté sur le camping, comme on, par exemple aussi sur tout ce qui est...
En gros, la question, c'est comment on fait pour être un festival comment on fait pour être un festival écolo ?
Bah, c'est des démarches qui ont été mises en place dès le début de la création du festival. C'est un thème qui est qui a beaucoup de valeur pour nous. Donc, ça s'est fait naturellement et c'est normal de protéger la planète. On voit dans quel état elle est en train de devenir. Donc, nous, on met vraiment un point d'honneur à ce que notre festival soit le plus écologique possible.
Au-delà de l'écologie, vous êtes engagé aussi dans la prévention des risques et vous avez à cœur de faire du Foin de la Rue un espace safe pour toutes celles et ceux qui profitent de ce festival. Et pour ça, vous travaillez avec les Catherinettes, mais aussi Ici C'est Cool. Et ce sont en fait deux assos qui accompagnent les structures culturelles pour prévenir toutes les violences sexistes et sexuelles. Samedi après-midi, vous allez proposer un atelier de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles sur votre site de l'étang.
C'est ça. Donc c'est un autre domaine qui nous tient à cœur. On sera accompagné donc par les Catherinettes qui sont là pour lutter contre les comportements à risque de violences sexistes et sexuelles. Donc ils seront à l'étang sous forme d'atelier et ils seront aussi sur le site du festival à côté de la prévention pour au cas où il y a des problèmes de ce genre à venir, que les gens puissent venir et qu'ils soient accompagnés par les Catherinettes qui eux ont un savoir-faire là-dedans.
Ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place ? C'est né peut-être avec MeToo ?
Ouais, c'est ça. Donc ça va être la première année cette année qu'on sera accompagné par les Catherinettes. Et on est très contents qu'elles puissent venir nous aider. Mais évidemment, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux aussi. Je pense qu'on vit dans une période un peu compliquée. Il y a tout ce qui est phénomène des piqûres, etc. etc. Donc... c'est un sujet qui nous sensibilise beaucoup.
Dans le même genre, vous avez programmé les Vulves Assassines, donc c'est un groupe punk rap de l'espace, hein, je cite ce qu'elles disent d'elles-mêmes, qui porte des valeurs bien féministes, bien radicales, et dont les deux membres fondatrices se sont rencontrés en faisant la com' du Parti communiste il y a bientôt 15 ans.
Ouais, donc après là, c'est la commission programmation, donc on est une dizaine dedans, à partir de septembre, on commence à pencher dessus. On commence par les têtes d'affiche et après, effectivement, on aime bien, dans cette commission, déjà avoir la parité homme-femme sur l'affiche. C'est un point d'orgue aussi qu'on amène et aussi à ramener des groupes qui sont pas programmés dans d'autres festivals. Notre fer de lance, c'est aussi d'écouter, par exemple, Romeo Elvis et d'être rappé par un groupe comme Vulve Assassin ou La La La, Antilacine, enfin, il y en a plein sur le festival, donc effectivement, pouvoir écouter autre chose que ce qu'on entend à la radio ou à la télé, quoi.
Et alors justement, racontez-nous un peu Vulve Assassin, qu'est-ce que c'est, comment vous avez choisi de les inviter, parce que c'est quand même... je ne connaissais pas ce groupe, en fait, à vrai dire.
Alors moi non plus, je ne connaissais pas, pour tout vous dire. C'est après, donc on travaille avec Thierry Bidet, donc le programmateur des Éclectiques à Chemillé. Donc après, chacun membre de la commission propose plein de noms qui vont ramener. Et après, en fonction, donc déjà, on trie donc des dispos. Après, il y a des prix, etc., etc. Mais chacun écoute les groupes. Et donc pour le cas de Vulve Assassin, il y a l'héritage de Maxime Leduc, notre ancien programmateur, qui partait aussi dans plein de styles différents. Donc ça pouvait être musique de l'Est, musique colombienne, enfin voilà. Et donc là, on n'a pas hésité, on n'hésite jamais hein, vraiment trop à aller dans des styles un peu plus extrêmes, entre guillemets, mais c'est hyper chouette de pouvoir programmer quand même des groupes comme ça, où c'est des groupes moins commerciaux, entre guillemets, donc avec des valeurs aussi derrière qui se rapprochent de l'association.
D'ailleurs, le slogan de votre festival, c'est éthique et éclectique, car on est en plein dedans, là.
Ouais, exactement. Donc c'est pour ça aussi que les groupes comme ça sont choisis au sein de la programmation.
Toujours dans un souci d'inclusivité, vous proposez aux festivalières et aux festivaliers en situation de handicap, en plus des plateformes pour les personnes en fauteuil roulant et des gilets vibrants, des concerts en chant signé. Concrètement, en fait, ça veut dire que sur un côté de la scène, il y aura une personne qui traduira les paroles en langue des signes ?
Exactement. Donc,
c'est fou, ça. Il y a
pendant les concerts, donc pas tous les concerts. Et il y a aussi sur les points resto, points boisson, sur le festival, pour qu'ils puissent commander également à manger ou à boire. Et donc, il y aura quelques concerts qui seront chansignés cette année. Il y aura La Femme, par exemple. Il y a Gaël Faye. Il y a Roméo Elvis aussi. Et De Bink. Donc, c'est hyper chouette. C'est un super beau moment. Et pareil, c'est des valeurs. On met en place pour que les 5 chants du handicap puissent venir sur le festival et que tout le monde puisse faire la fête malgré un handicap ou quoi que ce soit.
On va parler un peu de la prog, un peu précisément. Sur vos 3 scènes, on va retrouver des artistes qui étaient déjà programmés les années précédentes quand le festival avait été annulé évidemment à cause du Covid, comme Gaël Faye par exemple, encore Raccoon. C'était des engagements que vous aviez auprès d'eux de les faire revenir au moment de cette nouvelle édition après le Covid ?
Alors non. Alors là, c'est vraiment un choix de la programmation de remiser sur ces artistes-là, Gaël Faye, De Bink. Il y avait Rodrigo Gabriela aussi. On voulait vraiment les faire revenir. Je pense que c'était. On trouvait que ça collait vraiment bien à l'affiche. L'actu était là aussi. Et c'est des super concerts. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir les voir en vrai cette fois-ci en 2022.
Et vous avez aussi des nouveaux et des nouvelles venues avec la rappeuse ukrainienne Aliona Aliona. C'est un peu fou son histoire parce qu'elle avait quand même déclaré dans les Un Rock en mars, hein, je suis allé un peu rechercher, qu'elle resterait en Ukraine et qu'elle voulait participer à l'effort de guerre en Ukraine. Donc c'est une rappeuse ukrainienne. Hein, et elle disait qu'elle voulait rester là où les gens avaient besoin d'elle. Et finalement, elle sera avec nous au fond de la rue.
Ouais, donc c'est hyper chouette. Ce sera sa seule date en France en plus. Donc idem, après c'est une artiste qu'on a programmée avant que la guerre en Ukraine éclate. Je sais qu'elle est encore en train de combattre entre guillemets en Ukraine ou à côté de l'Ukraine en Pologne, elle doit soigner des gens, c'est ce que j'ai eu comme info. Et donc ce sera sa seule date en France, je pense que ça va être un chouette concert parce que elle va être aussi pas mal dans la revendication. Puis elle va peut-être pouvoir expliquer ce qui se passe là-bas. Enfin voilà, ça va être un beau moment sous le chapiteau au fond de la rue, donc le samedi.
Oui, c'est ça, c'est le samedi. Elle revient exprès pour vous et ensuite elle repart.
Il me semble. Hein, alors je sais pas, j'ai pas dans les détails, mais je pense qu'elle repart ensuite parce que vu que c'est sa seule date en France, on aura sûrement plus ample information. Quand elle sera là, on pourra peut-être lui parler un petit peu, mais voir ce qu'elle va faire après.
Vous avez aussi pas mal de petits à côté hein, avec le festival, puisque par exemple, j'en prends un au hasard, le samedi après-midi, il y a une initiation à la hoop dance et au hula hoop par la mangouste électrique, pareil sur votre zone de l'étang. C'est sympa ça, c'est marrant.
Alors ouais, donc c'est un espace gratuit, samedi après-midi. Ça fait quelques années que ça existe aussi pour... C'est pour attirer aussi un public un peu plus familial, les enfants, les familles. Et puis après aussi des festivaliers qui sont sur le camping qui peuvent venir se reposer à l'étang et voir des chouettes trucs également. Et aussi, on ouvre un nouvel espace à côté de l'étang, à 50 mètres, qui s'appelle La Cour. Donc c'est l'ancienne école publique de Sainte-Gatine qui sera animée par des DJ de Zéro Tapage. Donc c'est un festival en Mayenne. Qui se déroule mi-juillet. Donc on est très contents aussi de pouvoir les ramener sur le fond de la rue.
Une petite recommandation peut-être pour nos auditeurs et auditrices. C'est quoi le concert que vous attendez avec le plus d'impatience ?
Le concert que j'attends le plus avec impatience, moi, c'est La Femme. Donc ça, c'est le vendredi. Et après, il y en a vraiment plein. Roméo, Elvis aussi un peu. Raccoon, la clôture de Bagarre. Enfin, vraiment, donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de festival. J'ai envie de dire à tous les artistes, parce que bon, ça fait depuis le mois de septembre qu'on est en train de plancher dessus. Donc il y a vraiment tous les artistes que j'aimerais bien voir. Je les verrai pas tous. Il y a aussi Rodrigo et Gabriela quand même, c'est hyper chouette. Ils ont gagné un Grammy Awards aux États-Unis, donc c'est la classe. Voilà. Après, il y a Tilassine également, l'artiste mayonnaise de J.E.J. Donc aussi, on essaye de promouvoir des groupes locaux dans notre programmation. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, regardez l'affiche. Je pense que bon, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs. C'est vraiment une belle affiche. On est très content de la proposer cette année.
Et on vous souhaite une très très bonne 21e édition. Merci beaucoup François Moreau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le co-président de l'asso Foin de la Rue, mais aussi membre de la commission de programmation. Pour plus, il reste des places ?
Oui, il reste des places. Donc là, ça monte pas mal. Donc faut pas tarder quand même. Donc on est plutôt sur une bonne montée de réservation. Donc on est plutôt confiant, même très. Donc réservez vos places et n'hésitez pas à venir. Pour pouvoir profiter d'un beau festival et d'une belle programmation.
Voilà, pour plus d'infos et pour accéder à la billetterie, évidemment, tout est dispo sur leur site, le www.aufoindelarue.com. Merci beaucoup, François Marot.
Ben, merci à vous. Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu, llenando el vacío. Invita a flotar.
C'était Femina avec son morceau Arriba sur les ondes du 103 FM, on notera l'accent espagnol. Hein. Il est exactement, et je jette un coup d'œil à l'horloge, 18h19 sur les ondes du 103 FM. Et dans cette deuxième partie d'émission, on accueillera trois chroniques. La première chronique, c'est celle de Chloé. Salut Chloé.
Salut Hugo.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de comment est organisé le planning familial, mais à grande échelle, parce qu'en fait, on connaît souvent le planning familial de sa ville. Hein, on a tous déjà, j'espère, au moins été une fois, en tout cas, entendu parler du planning familial dans sa vie. Mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne de manière générale dans sa globalité. C'est un peu obscur.
Oui, Hugo. Alors, le planning familial, c'est avant tout des échelles locales. Donc, on peut prendre l'exemple d'Angers, où on a un planning familial et des locaux situés dans la ville. Cette association départementale, elle est influente, comme son nom l'indique, sur tout le département. On connaît celui d'Angers quand on y habite, mais on effectue aussi des actions sur l'ensemble du département, donc aussi dans des zones hors Angers. Donc ça peut être des zones rurales, par exemple, ou dans d'autres villes, comme Saumur, où le planning familial a une antenne. À cette échelle, sont surtout développés des projets locaux, qui influeront sur la ville et ses alentours. On peut penser à des actions menées à Angers, comme la participation à la Pride ou encore au Campus Day. Ce sont les adhérents qui votent pour les différents textes, comme le rapport moral, qui reprend toute notre activité pour un an, pendant les assemblées générales. Il y a aussi un conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, il prend les décisions pour l'association départementale. Il est en charge de la tenue de l'association, en fait, si vous voulez. Donc, on connaît souvent les conseils d'administration un peu classiques, avec un bureau, donc une présidente, un ou une secrétaire, etc. À Angers, c'est un peu différent, parce qu'en fait, le conseil d'administration, il est collégial. Donc, on est tous au même niveau et on prend les décisions tous ensemble.
Et à une autre échelle encore, il y a la fédération. Alors, c'est encore différent.
En gros, c'est un regroupement par région. Donc, on retrouve les associations départementales de toute la région qui forment la fédération. Il y en a plusieurs en France, vu que c'est organisé par région. C'est assez logique. L'échelle fédérale, elle est surtout centrée sur des décisions qui concerneront toute la région et pas seulement une ville. Ça fonctionne aussi avec des élus à l'échelle fédérale qui défendent l'intérêt de son association départementale afin de la représenter. Vous comprenez donc que les décisions prises à l'échelle fédérale, elles vont donc influer sur toutes les associations départementales qui la composent. L'échelle fédérale, elle est importante parce que ça permet de prendre en compte les spécificités de la région et sa façon de fonctionner, alors que l'échelle nationale, dont on parlera juste après, ne connaît pas forcément comment fonctionne telle ou telle région. Ça permet d'avoir un interlocuteur entre le national et le local.
Et enfin, il y a l'échelle nationale du mouvement.
C'est ça, c'est l'échelle confédérale, on l'appelle. Donc, comme on est un mouvement présent sur toute la France, assez logiquement, on a besoin de s'organiser. L'échelle nationale, elle donne le « là » pour toutes les associations départementales. Il y a aussi des élus qui représentent les associations départementales à l'échelle nationale. En gros, on élit quelqu'un à l'échelle locale et cette personne ira aux réunions du conseil d'administration national. Donc c'est une échelle qui est vachement intéressante parce que tout ce qui se passe au planning familial à l'échelle nationale, c'est géré par la Confédération. On peut penser par exemple à des interviews dans des gros médias, comme ça arrive quand même assez souvent, ou encore des prises de position publiques sur certains sujets qui touchent à ce qu'on défend. Les prises de position des associations départementales, en fait, elles dépendent de la prise de position que prendra la fédération, pour qu'on reste cohérent dans tout le mouvement. Dans le mouvement, on élit également un bureau qui prendra avec les élus les décisions pour le mouvement. Donc c'est un bureau national. Voilà, je vais terminer par dire que s'investir à toutes ces échelles, c'est super enrichissant. Que ça soit au degré local ou national, on trouve vraiment des choses hyper intéressantes qui nous forment et qui nous changent. On apprend beaucoup sur beaucoup de choses différentes. Enfin, il est important de noter que tous les élus qui s'impliquent, que cela soit de façon locale ou au conseil d'administration confédéral, sont des bénévoles à toutes les échelles.
Merci beaucoup, Chloé, pour ta chronique et on le rappelle pour nos auditeurs et auditrices. Tu es toi-même membre du planning familial et tu viens faire une chronique tous les mercredis, mais là c'est jeudi, sur l'antenne de Radio Campus Angers.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Elisa.
Salut Hugo.
Et ben pour la première fois, tu vas te tenter à l'exercice de l'agenda et tu vas nous raconter un peu ce qu'on va faire ce week-end. Et pour ça, je mets la petite musique de l'agenda.
Tu m'avais quand même pas prévenu, hein, mais bon, salut les humains. En ce mois de juin ensoleillé, j'ai concocté une petite programmation pour profiter d'un week-end festif et culturel à Angers. Un bon week-end commence bien évidemment le vendredi. Et le vendredi, quoi de mieux qu'une terrasse et un peu de musique. Le vendredi 17 juin, à 21h, c'est soirée découverte ou redécouverte au T-Rock Coco. À travers la jam session de Guillaume de Mijola et Jeff Robienne, c'est l'occasion de découvrir la musique jazz manouche. N'oubliez pas d'amener vos instruments pour vous joindre du haut, car comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Samedi, et après une soirée qui a fini trop tard, perso je me lèverai pas avant 11h et je vous conseille de faire la même. Mais pas question de glander toute la journée, car ce samedi 18 juin, une enquête archéologique a été ouverte.
Une enquête telle Hercule Poirot, le héros des temps modernes.
C'est carrément ça. Véritable enquêtrice du samedi et non du dimanche, je me rendrai à la collégiale Saint-Martin qui organise une enquête anthropologique les 17, 18 et 19 juin à l'occasion des journées européennes de l'archéologie. Au travers de ce jeu de pistes, c'est le moment de découvrir le fruit du travail mené par le département Maine-et-Loire. Une fois devenue une professionnelle de l'archéologie, une enquêtrice hors pair, j'irai danser. Faut pas déconner quand même. Pour finir ma journée en musique, j'ai deux options. Soit au Shabada, de 18h30 à 3h, à l'occasion de la dernière soirée organisée par le collectif L'Étincelle. Ils nous ont concocté, pour cette dernière soirée endiablée, une line-up punk rock, folk, hardcore, jusqu'aux sonorités psyché. Ou alors, mon coup de cœur du week-end, un open air organisé par Magic Tonic au Parc Saint-Serge, qui propose pour une fin de journée, tech house, house et techno, de 16h à 23h. Un bar sera également sur place et l'entrée est gratuite. Le dimanche 19 juin, si j'ai le courage de me lever, ce qui n'est pas mince à faire, j'irai me plonger dans un décor immersif à l'abbaye du Ronceret. À travers l'édition 2022 de 1000 plateaux, du 2 mars au 3 juillet, on peut découvrir l'œuvre de Pascal Dusapin. Il nous emmène dans un voyage où lumière, dessin et sonorité sont liés. Il nous offre alors une véritable expérience sous les nefs de l'abbaye plongée dans le noir. Pour bien terminer ce week-end angevin, on trouvera de 19h30 à 21h au Folie Angevine la soirée hebdomadaire d'Angers Comedy Club. Au programme, comme d'habitude, humoristes talentueux ainsi que boutades, calembours et bons mots. En tout cas, je vous invite à piocher dans ce petit programme de quoi kiffer votre week-end.
Un petit week-end donc où on est sûr de pouvoir te retrouver sur l'intégralité de ces événements.
Oui, carrément. Même si toi-même tu sais que c'est un mensonge, j'aurais beaucoup aimé y être, mais ça ce sera dans une autre vie.
Merci beaucoup Elisa.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Pour terminer cette émission, on accueille Hermine qui pour sa première chronique nous raconte un peu comment s'est passé son covoiturage. C'est une chronique qu'on a enregistrée il y a quelques temps dans nos studios.
Salut Hermine, aujourd'hui tu vas nous raconter un dimanche soir que tu as passé récemment. Tu rentrais de Rennes, direction Angers après ton week-end, et tu as pris un covoiturage. Là, tu as rencontré Maïlys.
C'était un dimanche soir, quelque part au sud de Rennes. Le soleil se couchait lentement, une bonne journée de mars s'achevait paisiblement. Avec ma petite sœur, nous rentrions à Angers en stop. Posté à la sortie d'un rond-point, le pouce levé le long de l'embranchement de la Nationale, nous attendions le généreux chauffeur qui nous conduirait à bon port. Après quelques minutes d'attente, une Clio Campus ralentit dans le flot continu des véhicules pressés. Elle s'arrête sur le bas-côté et une jeune femme, tout sourire, nous fait signe de monter. Nous courons jusqu'à elle, deux mots échangés par la fenêtre ouverte, et nous voilà installés. Elle rentre, elle aussi, à Angers. Elle s'appelle Maïlys. L'habitacle semblerait presque trop étroit pour elle, tant elle dégage un enthousiasme débordant. « Vous ne m'en voudrez pas, hein, je peux pas rouler à 130 avec cette voiture !» nous lance-t-elle sur un ton jovial. Bien au contraire, le ronflement régulier du moteur berce nos conversations. Elle est installée à Angers depuis quelques mois, après plusieurs années passées du côté de Saint-Brieuc. Un déménagement soudain qui n'a nullement effrayé notre conductrice. La liste de ses villes d'adoption s'allonge une fois de plus. Sa famille, elle, réside dans le sud-ouest. La jeune femme semble ravie de la nouvelle contrée où elle a récemment élu domicile. Passé les considérations géographiques, nous la questionnons sur son travail. Convention facile qui permet d'engager la conversation avec n'importe quel inconnu. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Je préférais que l'on puisse se demander sans plus de cérémonie « Et toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui t'anime ?» Néanmoins, cette banale interrogation pose bien souvent les jalons d'un échange plus profond. Un portrait se dessine si l'on accepte d'écouter et de poser quelques questions, histoire de détailler les lignes de force. Comment en es-tu arrivé là ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? En l'occurrence, notre Maïlys est une passionnée. Durant une heure et demie de route qui nous sépare de notre destination, nous découvrons ravis un métier aussi fascinant qu'inhabituel. Son ordinaire quotidien nous enchante. Maïlys est traductrice, en quelque sorte, mais la langue qu'elle interprète ne peut être ni écrite, ni entendue. Elle passe la plus grande partie de son temps auprès des élèves, dans différentes classes d'un collège situé à proximité d'Angers, mais elle n'est pas institutrice. Le tableau et la craie ne lui sont d'aucune utilité, pas plus qu'un micro ou un casque. Pour seul matériel, son visage, ses mains et une oreille aiguisée. C'est un peu cela son métier, prêter l'oreille pour ceux qui ne l'ont pas. Maïlys travaille auprès des enfants sourds qu'elle accompagne durant toute leur journée d'école. Elle nous explique que la plupart d'entre eux lisent sur les lèvres pour suivre les enseignements. Certains distinguent quelques sons, mais prendre des notes se révèle souvent un exercice ardu pour ces enfants au handicap à peine visible. Comprendre est loin d'être facile, il s'agirait d'abord d'entendre. Une partie de l'enseignement se perd lorsque les paroles ne sont pas suffisamment articulées, lorsque les sons se mélangent, ou bien lorsque l'enseignant se retourne pour écrire quelque chose au tableau. Difficulté insoupçonnée pour nous autres bons entendeurs. Alors Maïlys intervient, debout devant la classe, à quelques pas de la maîtresse. Elle retranscrit phonétiquement tout ce qu'elle entend, ses doigts courent aisément autour de son visage. Pour les initiés, consonnes et voyelles apparaissent au gré de ses signes aussi brefs que silencieux. Elle s'assure que les élèves malentendants ne perdent pas une miette de ce qui se passe autour d'elle. Elle répète aussi bien la leçon d'histoire que la blague qui fait s'exclamer les camarades autour d'un élève dubitatif. Par de petits gestes précis et rapides, elle signe tout ce qu'elle entend. Et sur la départementale bien droite, dans le soleil couchant, elle ne peut s'empêcher de glisser quelques signes au gré de nos échanges. C'est plus fort qu'elle. Ses mains, ses doigts s'agitent dès qu'elle prend la parole. Des formations professionnelles sans doute. Je la regarde. Je suis marquée par son visage d'une rare expressivité. Elle nous raconte les enfants qu'elle accompagne, le parcours du combattant initié dès la petite enfance, le premier diagnostic, les soins et tous les aménagements nécessaires au quotidien des enfants sourds, les différents langages et codes. Son regard en dit long sur la profonde affection qu'elle leur porte. Ils sont tour à tour patients, confidents, collègues. Elle connaît chacun de leurs visages, leur manière d'écouter le monde, les difficultés, et connaît mieux que personne la fatigue qu'entraîne une journée d'école où chaque instant exige la concentration. Écouter, c'est son métier. Parler aussi. Sa voix est teintée d'effervescence. Elle semble mener plusieurs conversations à la fois. Sa gestuelle a le même ton clair et assuré que ses mots. Elle aime la musique, elle aime les voix. Elle aime surtout les faire entendre à ceux qui ne peuvent les percevoir. Dans le langage spécialisé, Maïlys est codeuse LPC. Elle retransmet un message en langue parlée complétée. Dans le langage courant, elle est une aide précieuse pour ses jeunes élèves qu'elle assiste quotidiennement. Mais Maïlys est avant tout chef d'orchestre. Les journées de classe sont les partitions qu'elle déchiffre aisément et guide à grand renfort de gestes. Ses mains ont autant de tessitures que les voix et assemblent harmonieusement les sons épars. Une vocation ? Non, un hasard providentiel, me répond-elle. Maïlys a tracé son chemin petit à petit, au gré des expériences et des rencontres. Travailler avec les jeunes enfants, une certitude. Mais pas prof, hein, pas instit. La posture d'autorité l'incommode. Enseigner, non, mais accompagner, oui. Éducatrice ? La question s'est posée aussi, mais c'est au cours d'une mission humanitaire aux Philippines que Maïlys découvre sans le savoir ce métier inconnu. Quelques mois passés à animer des ateliers pour des enfants défavorisés, parlant uniquement le tagalog, l'un des dialectes des Philippines, furent pour elle une première immersion. Comment se comprendre lorsqu'on ne parle pas la même langue ? Expliquer des consignes ? Encadrer une après-midi entière de jeu ? Impossible ? C'était sans compter sur les ressources insoupçonnées de ces petits gamins des rues, qui à grand renfort de gestes et de mimiques, surent bien se faire comprendre. De retour en France et quelques mois de formation plus tard, la voilà codeuse LPC, professionnelle de la surdité, mais avant tout, épanouie et heureuse d'avoir trouvé sa juste place. Les 130 km qui séparent Angers de Rennes passent bien vite, au régime d'un moteur zélé, au rythme d'une passionnante histoire de vie. Maïlys nous dépose à quelques rues de chez elle. Nous échangeons un dernier signe de salutation. La petite Clio, au caractère aussi trempé que sa propriétaire, clignote à cheval sur le bord du trottoir. Nous rentrons chez nous, encore enthousiastes et profondément reconnaissantes de la découverte d'un métier, mais surtout d'un visage, inconnu quelques heures encore auparavant.
Merci beaucoup, Hermine, pour cette magnifique chronique, ce beau portrait. Et c'est vrai que si jamais on ne pouvait rencontrer que des Maïlys dans nos covoiturages, ça nous ferait bien plaisir. Et c'est déjà la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas, et vraiment n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.